Nous sommes à Comic-Con Japan Expo avec Philippe Dubois, président de MO5.com. Et sur le stand, on a appris quelque chose d'extrêmement intéressant. Déjà, sur le stand, on peut jouer à plein d'anciens jeux vidéo sur des consoles existantes. Donc, il y avait Pong, il y avait Dragon's Lair, Pac-Man, etc. C'est incroyable déjà de pouvoir avoir des machines en état de fonctionnement et de les laisser au public aussi longtemps. C'est... Merci. Déjà, merci.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, je me présente, Philippe Dubois. Je suis le président de l'association MO5.com. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, dont le but est de préserver le patrimoine numérique. Donc, s'il faut définir ou résumer qu'est-ce que le patrimoine numérique, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde encore. Bien évidemment, on peut résumer ainsi par l'histoire de l'informatique, l'histoire des jeux vidéo, et finalement tous les usages courants liés à ces matériels depuis à peu près 40 ans. Donc ça, c'est un petit peu notre métier, notre travail au quotidien. Et pourquoi fait-on cela? En fait, nous faisons tout cela, tous ces efforts depuis à peu près 12 ans pour que puisse naître, en France, un jour un véritable musée national des jeux vidéo ou des cultures numériques, quel que soit le nom. Et nous sommes, bien heureusement, depuis à peu près un an et demi, deux ans, accompagnés sur cette mission maintenant par le ministère de la Culture.
Et donc ça va se pré-concrétiser avec une exposition. Il y a un de vos collègues qui nous disait ça tout à l'heure. 240, c'est ça? 240 machines vont être exposées?
Vous savez certainement, si vous suivez l'actualité de l'association ou du patrimoine numérique ou des jeux vidéo, on va dire, au niveau de leur reconnaissance institutionnelle, j'entends, qu'a eu lieu donc déjà l'année dernière une exposition assez exceptionnelle qui s'appelait Museo Games, une exposition sur l'histoire du jeu vidéo qui a eu lieu donc au Musée des Arts et Métiers. Et c'était la première fois en France que le jeu vidéo passait le palier d'un musée national pour investir donc le Musée des Arts et Métiers. Ça s'est exceptionnellement bien passé, vraiment à la fois le musée et puis le public étaient vraiment ravis, nous-mêmes et bien évidemment. Et finalement, l'étape suivante qui aura lieu donc dès début novembre, qui s'intitule Game Story, sera et restera très vraisemblablement la plus grande exposition française sur l'histoire des jeux vidéo, qui aura lieu dans un des plus beaux lieux culturels français, qui est donc le Grand Palais. Cette exposition a été commanditée et est administrée actuellement par l'ARMN, la Réunion des Musées Nationaux. Pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, c'est par elle que passent les plus grandes expositions culturelles françaises. Donc vous avez certainement entendu parler de l'exposition Monet, du peintre Monet, voilà, au Grand Palais, au même lieu. Et bien voilà, grâce aux efforts combinés de MO5.com et de la RMN, soutenu très activement par le ministère de la Culture, et bien le jeu vidéo va rentrer dans le Grand Palais, dans le plus beau édifice culturel français. Et ce qui a été annoncé donc par monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, lors de, notamment du dernier Conseil des ministres, c'était il y a à peu près un mois et demi de cela, c'était donc d'abord annoncer cette exposition qui sera majeure sur les paysages culturels et audiovisuels français, et également que celle-ci pourrait très bien constituer finalement la première étape vers la constitution du musée national que nous appelons de nos voeux.
Comment vous faites pour conserver en état de marche tout ce matériel?
Donc il faut bien comprendre, pour préserver, pour que nous puissions effectuer ce travail de préservation, de restauration et de remise en valeur auprès du public de toutes ces vieilles machines, que notre principal moteur, et quasi unique d'ailleurs, est la passion. Donc nous avons déjà à peu près 280 membres inscrits dans l'association. Chacun d'entre eux officie tel qu'il le peut, mais au service de l'association, ses compétences, pour que puissent avoir lieu ces expositions. Des salons comme la Japan Expo, notamment cette année, mais il faut bien évidemment savoir que nous sommes présents sur la Japan Expo depuis 2005, dans un but de visibilité. C'est-à-dire que nous sommes là pour faire parler de nous, de notre métier, de notre connaissance, montrer une petite partie de notre collection, parce que finalement, tout ce que vous pouvez voir ici, il y a à peu près 15, 16 à 20 machines jouables, différents dispositifs. Il faut savoir que nous sommes à la tête de la plus grande collection européenne dédiée au patrimoine numérique et peut-être la plus grande du monde. Là, c'est un petit peu plus difficile à estimer. En tout cas, si nous ne sommes pas les premiers, nous sommes certainement dans le top premier ou le top 5, en tout cas. Toutes ces collections nécessitent beaucoup d'entretien, elles nécessitent beaucoup d'attention. Donc les membres, week-end après week-end, se regroupent dans nos locaux, actuellement donc en proche banlieue parisienne, pour que voilà, l'association puisse continuer d'exister, que les expositions puissent continuer d'être organisées, le matériel préservé, restauré, remis en état s'il y a besoin. besoin. Et tout cela, je vous dis, le moteur principal, ça reste la passion et cette cohésion entre nous, entre les membres, autour de l'axe principal de l'association qui est, je le répète, la construction d'un édifice institutionnel national autour du patrimoine numérique.
Est-ce que si on a des vieilles machines qui sont plus en état de marche ou quoi que ce soit, qu'on ne sait pas quoi en faire, est-ce qu'on peut les donner à l'association ?
D'une part, de notre statut d'association, la 1901, but non lucratif, donc effectivement, nous sommes tout à fait aptes et nous sommes très intéressés pour recevoir des dons, surtout que dans le but de ce qui a été exposé avant, à savoir la construction de cette grande exposition au Grand Palais, la plus grande, hein, je le répète, sur le panel français, et puis dans l'accompagnement de notre mission pour la constitution d'un musée national, on a besoin réellement d'être accompagné de tous les Français qui veulent nous donner du matériel, essentiellement jeux vidéo, mais également informatique, hein, puisque nous essayons de dresser un portrait en tout cas de tout le patrimoine numérique, informatique et jeux vidéo. On peut également parler de tout ce qui est numérique en termes de téléphonie, d'audiovisuel, de lecteurs DVD, etc. Enfin, c'est vraiment très large, mais voilà, nous incitons et nous demandons réellement que tous les gens qui possèdent chez eux du vieux matériel, qu'ils souhaitent se débarrasser, pas forcément de le revendre, parce qu'il y a cette possibilité bien sûr, mais si elles ont une affection peut-être particulière pour ce matériel-là, voilà, qu'elle nous le donne pour lui donner une nouvelle maison, entre guillemets, et surtout que celui-ci puisse être restauré, chouchouté, finalement chez nous, et potentiellement être remis en valeur au sein d'une exposition, et on l'espère tous, au sein du futur musée national.
Dans ce musée, est-ce que vous mettrez aussi des choses actuelles, ou est-ce que vous avez une limite à... Enfin, en gros, si c'est pas assez vieux, ça peut pas arriver dans votre musée.
Alors, par rapport à cette question de savoir qu'allons-nous représenter dans nos expositions ou au sein du futur musée national, alors il faut bien voir, encore une fois, je vous réintéresse à l'exposition Game Story au Grand Palais, c'est que celle-ci va réellement être pour la première fois également en France et potentiellement d'une grande partie du monde, une exposition dans laquelle le jeu vidéo va être présenté avec tous les objets contextuels, avec tous les médias contextuels avec lesquels il est né et avec lequel il influe finalement. Donc on va voir représenter dans cette exposition tout un ensemble d'idées, de concepts qui ont, pour certains d'entre eux, incité des créateurs de jeux vidéo à pondre certaines œuvres qui sont très connues. Je parle de Alone in the Dark, de Tetris, etc., etc. Et potentiellement derrière, qu'est-ce que ces œuvres, qu'est-ce que ces jeux vidéo ont réalisé derrière, ont prototypé finalement pour d'autres créateurs qui ont officié dans le cinéma, dans la musique, dans l'audiovisuel de manière large. Et donc tous ces éléments-là seront démultipliés, seront démontrés jusqu'à un détail, un niveau de détail extrêmement détaillé, extrêmement fin au sein du futur musée national. Donc vous pouvez, on peut citer par exemple un jeu tel que Barbarian, le jeu Barbarian sur Amstrad CPC, Atari ST, etc., pour ceux qui connaissent, hein, ce jeu de combat qui est finalement la mère de tous les jeux de combat tels qu'on connaît actuellement, les Soul Calibur, les Tekken, etc. Voilà, le premier c'était Barbarian. Eh bien, ce jeu-là, Barbarian, de quoi tire-t-il son imaginaire? Eh bien, on peut citer, bien évidemment, Conan le Barbare, on peut citer les films de Schwarzenegger, Kalidor, etc., etc. Kalidor, dont il a repris notamment les fameux bruitages, les digitalisations présentes sur la version Atari ST et Amiga, c'est vraiment qu'un exemple bien sûr, mais très détaillé, vous pouvez le voir, les digitalisations sonores de la version Atari ST et Amiga sont tirées du film Kalidor. Voilà, ce sont ce genre d'éléments qui vont être détaillés, on l'espère déjà, à un certain degré, avec tout l'espace disponible à peu près un peu plus de 700 mètres carrés au sein de Game Story au Grand Palais, mais finalement on aura besoin de milliers de mètres carrés au sein du futur musée national pour qu'on puisse arriver à ce niveau de détail et qu'on puisse comprendre finalement tout ce que représente le jeu vidéo. Voilà, en tant que potentiel nouvel art à part entière, avec des inspirations en amont et en aval.
Est-ce que des émissions comme Retro Game One, qui est présentée par Marcus sur la chaîne Game One, est quelque chose qui vous permet d'avoir une visibilité plus importante?
En fait, ce qui est important, c'est que nous sommes, comme je le répète, donc une association. C'est-à-dire que nous sommes en regroupement de passionnés, de joueurs essentiellement, bien sûr. Après, il y a des passionnés d'informatique, d'électronique, il y a un petit peu tous les profils, des journalistes, beaucoup de journalistes. Et donc, ce regroupement de passionnés fait que, de toute façon, nous attirons, entre guillemets, tous les passionnés autour de nous. Nous avons un niveau de discours, de langage, d'idées, de concepts même, qui plaît à tout le monde. Il est quasi impossible de trouver quelqu'un qui ne connaisse pas, enfin, s'il s'intéresse réellement à ce genre de domaine, bien sûr, mais surtout qui ne qui ne soit pas positif par rapport à cette idée de concevoir une entité globale et nationale soutenue par le gouvernement, par l'État, dans lequel on retrouverait tout ce qui est lié aux jeux vidéo, à l'informatique, à tous les aspects d'usage depuis 40 ans qu'ont pu avoir les Français et puis d'autres personnes dans le monde, ce qui finalement regroupe réellement tout un tas de journalistes, de personnalités du jeu vidéo, et de manière assez naturelle. C'est bien pour ça que nous avons des membres d'honneur au sein de l'association M105.com qui nous soutiennent réellement et publiquement, qui sont parmi dans les plus grandes personnalités du monde du jeu vidéo. Nous avons tout de même monsieur Alexei Pachinov, le créateur de Tetris, qui nous soutient officiellement, qui l'a annoncé d'ailleurs dans une vidéo lors du dernier Video Games Live. Nous avons Marcus, donc effectivement animateur de Retro Game One, et toute la chaîne d'ailleurs qui nous soutiennent, qui est également un membre d'honneur et qui le dit lui-même, entre guillemets, n'aurait pas autant de légitimité peut-être sans MO5.com derrière, qui nous-mêmes préservons tous les petits trésors qu'il a pu accumuler et lequel il a joué pendant toute sa vie. C'est pour cela que Marcus nous soutient vraiment hyper activement. Dès qu'il peut placer du MO5 à droite, il le fait à gauche dans une émission ou dans ses projets futurs. Il y a aucun souci, et nous le faisons aussi. On est vraiment une communauté, et à tous les niveaux. Une communauté de collectionneurs, certes au départ, maintenant une communauté de journalistes et d'experts reconnus nationalement, voire internationalement, pour nos connaissances et notre expertise dans ces milieux. Et maintenant, une communauté de journalistes et de gens, réellement de VIP du jeu vidéo, qui se regroupent de plus en plus pour aller appuyer notamment sur les ministères de la Culture, bien que nous les connaissons bien, et au gouvernement pour dire, les petits gens des MO5, ils ont ce projet depuis 12 ans ou 14 ans, ils ont mis d'innombrables années à se former, pour attaquer, expliquer, ainsi d'abord au public et après au ministère, aux institutions nationales, de quoi y retourner lorsqu'on parlait de patrimoine numérique, parce qu'il n'a pas toujours été ainsi, en tout cas pas autant, pas aussi facile que maintenant. Et tous ces gens-là, prennent, en tout cas, d'une parole et d'une voix unique, notre défense, et ils disent, qu'attendez-vous pour les aider, qu'attendez-vous pour leur donner enfin les murs qui permettront à tous d'avoir une institution nationale dans laquelle nous allons pouvoir tous nous regrouper.
Pour finir, et en fait, on aurait peut-être dû commencer par ça, pourquoi MO5 ?
C'est une bonne question que l'on me pose souvent, il n'y a pas de problème. Donc d'abord, MO5.com ne s'est pas toujours appelé MO5.com. Au début, la première initiative, ma première initiative, en tout cas en 96, c'était de créer un site web, puisque Internet commençait à démarrer en France et être accessible au public. Cette site initiative s'appelait Musée d'Histoire Naturelle Informatique, qui était un pied de nez au Musée d'Histoire Naturelle, en disant, si on conserve les vieux dinosaures, eh bien on a besoin de le faire également pour les vieux dinosaures informatiques et également les consoles de jeux. Et finalement, en 97, Canal+, pour lequel je travaillais à l'époque pour réaliser l'encyclopédie des jeux vidéo, c'est un vieux produit datant de 2000, qui bien sûr est un petit peu difficile, est très ancien en termes de contenu, mais c'était la première fois qu'il y avait quelque chose de conçu autour de l'histoire des jeux vidéo. Donc j'avais participé à ce produit-là, et je m'étais fait offrir à l'époque un appareil photo numérique en 97, donc c'était vraiment une bouse infâme, un Kodak DC10 qui faisait des photos de 512 pixels par 384. Donc vous imaginez, les millions de pixels, on a été très 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 loin. Et j'avais réalisé grâce à ce machin une belle photo, c'était un Thomson MO5. Comme j'avais la possibilité de créer un nom de domaine en 98, j'avais déposé un nom de domaine, donc MO5.com, parce qu'on ne faisait pas encore de .net, de .org, des choses comme ça. Et finalement, je pense que j'ai eu un acte assez heureux, puisqu'il se trouve que, qu'est-ce que représente le Thomson MO5 ? Eh bien, c'est la première initiative du gouvernement pour intéresser tous les Français nationalement à s'intéresser au numérique, en mettant à disposition dans les collèges et les lycées de France en 84 des Thomson MO5, Thomson qui avait remporté donc cet appel d'offres national, des ordinateurs, des micro-ordinateurs dans lesquels beaucoup de Français ont pu mettre la main sur un ordinateur, se dire mais waouh, c'est génial, c'est un outil certes, mais il peut m'aider à dessiner, il peut m'aider à programmer, à réaliser mes jeux, à réaliser mes finances, etc. Et on peut dire que beaucoup de Français des témoignages qui me sont arrivés depuis une quinzaine d'années par mail et de différents moyens, voilà, m'ont dit, ben voilà, grâce au Thompson et au sens que j'ai pu trouver dans mon collège, je suis devenu moi-même informaticien, je suis devenu moi-même programmeur de jeux vidéo, je suis devenu moi-même artiste, pixel artiste, j'ai commencé à créer de la musique en plaçant mes notes sur la partition, etc., etc. Et donc je suis vraiment très fier finalement qu'on ait choisi ce nom MO5.com parce que, en tout cas nationalement, mais au niveau européen quand même, le Thompson MO5 a été largement connu, bien voilà, il représente réellement un engouement, un point de départ, un point d'ancrage dans l'histoire de la micro-informatique familiale française et de toutes les créations, de tous les, en tout cas tous les corps de métier que l'on connaît encore, enfin que l'on connaît maintenant, qui ont un point de départ qui est donc le Thompson MO5. Lorsqu'on dit Thompson MO5 aux gens, eh bien potentiellement ils peuvent se rappeler qu'effectivement ça a été le point de départ pour eux de beaucoup de choses qui amènent maintenant aux usages que l'on connaît, les usages communs de l'informatique, du jeu vidéo et de beaucoup de choses liées à la création numérique.
Un mot sur l'ambiance de Japan Expo Comic Con ?
Ben écoutez, pour notre part, on est très content d'être à cette Japan Expo 2011. On a pu réaliser justement grâce encore une fois à la motivation, à la passion de nos membres, hein, parce que le seul moteur, c'est les bénévoles de nos membres. Donc ils ont pu monter un stand vraiment qui est très beau cette année grâce à différents éléments que nous avons pu récolter grâce à d'autres membres justement. Enfin, tout s'alimente, tout tourne en boucle quelque part. Et finalement, les gens sont très heureux sur notre stand qui représente, il faut bien le voir, pas simplement un lieu dédié au rétro gaming. D'ailleurs, on emploie beaucoup plus nativement maintenant le mot classique gaming, un petit peu comme dans le cinéma. Lorsqu'on va voir un Metropolis de 1926, on va pas dire qu'on va voir un rétrofilm, on dit qu'on va voir un classique du cinéma. Et bien voilà, lorsqu'on va jouer au premier Mario, au premier Sonic sur notre stand, et bien on va jouer un classique du jeu vidéo. Et donc les gens sont, pour ceux qui connaissent ou connaissent mal ou connaissent peu, sont extrêmement ravis bien sûr de retrouver ces jeux vidéo sur notre stand. Ils sont également finalement contents de voir que quelqu'un s'occupe finalement de préserver tout cela, que cela ne disparaîtra certainement pas, et également se raccroche à nous finalement en devenant membre et adhérent de l'association au projet final de construction de cet institut national. Tous ces gens-là, voilà, appuient notre idée, nous soutiennent généralement, soit en nous disant simplement ben, merci pour ce que vous faites, ou en devenant membre. Et pour nous, c'est très très important. C'est un lieu qui nous permet, voilà, d'asseoir une visibilité, une légitimité, et de finalement de faire venir à nous des personnes qui potentiellement ne nous connaîtraient pas, mais qui adhèrent à l'idée de ce musée national.
Vous avez un petit jeu coup de cœur ?
Sur le stand actuellement, oui, on peut parler de... Bon, il y a Pong. On a placé, il faut bien le voir ainsi, un Pong, un véritable Pong datant de 1978 avec une télé noir et blanc de 1978. Donc, parce qu'on met un point d'honneur à recréer des éléments contextuels globaux. Donc, on va pas mettre de la TV LCD par exemple sur une Mega Drive, une Master System. Ça serait un non-sens absolu. En tout cas, nous placerons tant qu'il sera encore possible de le faire. Mais il y a plein de techniques qui permettent de le faire. Hein. Ça fait partie de notre travail de fond d'analyse, de préservation du patrimoine. Des tubes cathodiques, des télévisions d'antan, sur ces machines-là d'antan, pour que les gens puissent expérimenter réellement dans le plus fin contexte qui était celui du début des années 80, dans le cadre du Pong ou du Master System, etc., les jeux vidéo d'antan. Donc je dis qu'on est très très contents. Tous les membres qui sont ici sont présents vraiment sous la forme du bénévolat. Ils désirent participer, ils désirent guider le public, les aider à découvrir nos activités, les vieux jeux vidéo, afin que notamment, et ça c'est une mission, on va dire, quasiment d'ordre civique, on puisse éduquer les gens qui prennent, grâce à notre travail, finalement un petit peu de recul par rapport à la création contemporaine et se dire que bah, potentiellement il n'y a pas eu que la PlayStation, la PS2 ou la PS3, il y a eu bien des choses avant, et que avec ce recul là ils puissent analyser de manière un petit peu plus fine et certainement plus amenée vers vraiment un aspect culturel lié aux jeux vidéo, la création contemporaine, en se dire c'est pas forcément parce que c'est ancien que c'était moins bien ou que c'est nouveau que c'est beaucoup mieux. Merci à vous, et puis écoutez, j'espère qu'on se recroisera bientôt. Avec plaisir.